France Culture.
She didn't consider my red puffy face injured.
I just took the knife out and I said, here, cut me. You want my blood? Take it.
Bonjour les book clubs, j'ai vu sur le bandeau 500 pages sur Johnny Depp et Amber Heard et j'y suis allé. Et je n'ai pas lâché, je l'ai dévoré ce livre comme une série documentaire Netflix.
It was so bizarre. And so grotesque that I could only laugh.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Tourbillon de fascination pour ces maudites histoires de vedettes. Aujourd'hui dans votre book club, il suffit d'un article paru dans le journal Le Monde et qui relate les démêlés judiciaires de l'acteur Johnny Depp avec son ex-femme, actrice elle aussi Amber Heard, pour que la narratrice du dernier roman d'Elisabeth Benoît se prenne d'une curiosité obsessionnelle pour leur histoire. Violence, dépendance, argent mais misère, ultra-surveillance, tout apparaît dans le détail des si nombreux dossiers, des tonnes de détails. Et c'est aussi ce que soulève ce roman, ce que la littérature doit au détail et ce qu'il y a parfois de dégoûtant dans notre fol appétit d'histoire. Elisabeth Benoît est notre invitée pour son roman Toronto. Ensuite, et comme chaque semaine, nous prenons des nouvelles du livre en dehors de nos frontières. Notre correspondante à Ramallah relaie aujourd'hui le cri de désespoir de l'ancien ministre de la Culture palestinien en détruisant son appartement. Les bombardements israéliens ont détruit sa bibliothèque. En fin d'émission, on écoute de la musique. On est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Elisabeth Benoît.
Bonjour.
Votre livre Toronto a paru aux éditions POL. Bienvenue à vous dans le Book Club. Votre roman sera au cœur de notre conversation tout à l'heure. Ici, tout commence toujours par un questionnaire de lecture. Et souvent, on trouve des traces des lectures dans les romans, dans les livres de nos invités. Souvent, les personnages lisent eux-mêmes des livres. C'est assez peu présent, voire totalement absent de Toronto. C'est comme si la littérature était évidemment une préoccupation de la narratrice qui écrit, mais pas du monde de Johnny Depp, pas du monde d'Amber Heard, sauf quand ils se rencontrent et que Amber Heard dit « on avait les mêmes goûts, on lisait les mêmes poèmes ». Et d'un seul coup, on imagine Johnny Depp et Amber Heard lire de la poésie. Est-ce que vous-même vous en lisez de la poésie ?
De la poésie, non, mais je lis, j'aime bien lire du théâtre. Qui ressemble quand même, voilà. Mais je lis pas de poésie, parfois un peu Baudelaire, mais vraiment très peu.
Est-ce que vous avez grandi dans une maison où il y avait des livres ?
Oui, alors j'ai grandi, il y avait dans le bureau de mon père en haut une bibliothèque qui était la bibliothèque de mes parents. Et je me souviens aussi être allée beaucoup à la bibliothèque de quartier, dans mon quartier.
Qu'est-ce que vous y faisiez ? Qu'est-ce que vous y empruntiez ?
Alors, j'ai beaucoup de souvenirs de moi errant dans les rayons, cherchant un livre à lire. Donc, j'ai des souvenirs de livres. J'ai toujours cherché des livres à lire, beaucoup. J'ai des souvenirs...
Ça veut dire quoi, j'ai toujours cherché des livres ?
J'ai beaucoup d'images de moi, à la fois chez moi, chez mes parents, dans la bibliothèque de mon père. En train de chercher, alors en regardant tous les livres, cherchant le livre, et aussi les images de moi dans la bibliothèque municipale de mon quartier à Montréal, à Notre-Dame-de-Grâce, longeant les, comme ça, en essayant de trouver un livre au hasard.
Est-ce que vous savez les critères qui guident cette recherche ? Ou qui guidait à l'époque cette recherche ?
Ouais, non, c'est vraiment... Il y a plusieurs critères, des histoires qui m'emportent, mais vraiment, je fais vraiment comme beaucoup de gens, je crois, j'ouvre le livre et voilà, je lis quelques phrases et si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ben, ça marche pas.
Encore maintenant, ça fonctionne comme ça ?
En bonne partie, oui. C'est pas juste ça, mais en bonne partie, oui.
Quel est le dernier livre qui vous a emporté sur un feuillage de pages ? Vous êtes dit, ok, on y va.
J'ai lu il n'y a pas très longtemps À l'Est d'Éden de Steinbeck. Et ça faisait longtemps que je n'étais pas allée à la bibliothèque et de Montreuil. Et je suis retournée à la bibliothèque et il y avait le livre comme ça, qui était mis en vedette. Et je l'ai pris, j'ai feuilleté. Voilà, ce livre m'a emporté.
Elle ressemble à quoi votre propre bibliothèque, Elisabeth Benoît, aujourd'hui ?
Elle est très... j'ai pas tant de livres que ça. J'ai déménagé il y a très longtemps. Mais je vis dans une maison où il y a beaucoup de livres. C'est pas beaucoup mes livres qui sont là. C'est beaucoup les livres. de mon copain. Et moi, c'est un peu le désordre. Alors, quand je cherche un livre, il y a des piles de livres. Alors, mon père faisait des piles de livres et moi aussi, je fais des piles de livres. Donc, dans le bureau de mon père...
Selon quelle logique, les piles de livres de votre père ?
Sans logique. Okay. Donc, il y avait pas assez de place, simplement. Donc, il y avait une bibliothèque avec, par terre, des piles de livres. Et moi, j'empile les livres comme ça. Donc, j'ai beaucoup de mal à retrouver un livre. Dernièrement, j'ai cherché un livre pendant, je sais pas, 2 jours. Donc, j'ai fini par le retrouver derrière des objets, une pile de livres, au fond de la pile de livres, j'ai fini par le retrouver. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup d'ordre dans ma bibliothèque.
C'est marrant ce motif d'une femme lectrice qui cherche un livre, en fait, finalement, depuis l'enfance. Vous diriez que ça pourrait être une sorte de portrait de vous en tant que lectrice ? Je cherche un livre ?
Oui. J'ai l'impression, j'ai aussi des souvenirs de moi descendant dans la cuisine. C'était, mon père était toujours assis à la même place quand il y avait cette scène-là. Et je disais à mon père, qu'est-ce que je peux lire ? Qu'est-ce que je peux lire ? Et il me disait toujours la même chose, parce que lui, il aimait beaucoup Balzac. Donc, il y avait à côté des Spirou, parce que je lisais aussi beaucoup des Spirou, il y avait des gros albums. Il y avait des gros albums de Balzac. Il me disait toujours, lis Balzac. Et donc, j'essayais. Et puis, il y avait une grande description au début du livre. J'arrivais pas. Donc, je refermais le livre. Je disais, non, j'arrive pas. Je
prenais un autre livre. Et 15 jours plus tard, il vous disait,
lis Balzac. Et un jour, j'ai dit, ben, je vais sauter la description du début.
Et alors?
Et je l'ai lu.
Et d'un seul coup, vous êtes entrée dans Balzac autrement.
Ouais, tout à fait.
Il y a une question qui revient de temps en temps dans ce questionnaire lecture, Elisabeth Benoît, c'est l'idée d'avoir un horizon de lecture, peut-être une promesse ou un rendez-vous avec un auteur ou une autrice, ou même un titre en particulier. Donc ce serait pas « je cherche un livre », mais « j'irai vers un livre » ou « je vais vers un livre ». Est-ce que ça existe dans votre vie ?
Oui, il y a beaucoup de livres que j'aimerais lire. Il y a beaucoup d'auteurs. J'aimerais lire Faulkner, j'aimerais lire Joyce, que j'ai jamais lu, que j'ai déjà essayé de lire en anglais, ce qui était peut-être pas une bonne idée, parce que du coup, je me suis un peu... Des grands auteurs comme ça. Je voudrais lire... J'ai déjà lu Montaigne, mais jamais au complet. Donc, j'aimerais lire Montaigne, des choses comme ça.
Et vous n'y allez pas parce que vous dites « j'aimerais » ?
Bah, j'y vais tranquillement, j'essaie de... Il y a une chose, c'est que j'ai du mal... En fait, les livres que je connais vraiment, c'est les livres que je relis.
Mmh. Ce que vous faites beaucoup ?
Ce que je fais beaucoup. Donc, j'ai l'impression d'être un peu comme une sorte de passoire. Donc, il y a des livres à histoire, hein, qu'on lit pour une histoire, donc on ne les relit pas. Mais il y a d'autres livres que j'ai adoré, mais je ne m'en souviens plus. Et vraiment, la façon de me l'approprier, c'est de... lire et relire et feuilleter. Je feuillette beaucoup de livres.
Comme pour retrouver votre lecture.
Pour retrouver ma lecture, pour l'intégrer, pour que ça descende en moi, pour que ça se pose en moi.
J'ai commencé par dire que le monde que décrit votre roman et dont on va parler, Elisabeth Benoît, semble un monde loin du littéraire, sauf l'évocation brève de leur rencontre à tous les deux autour de la poésie, mais c'est très bref cette évocation-là. Ouais. C'est vrai qu'on a plus l'impression d'un monde très lié au cinéma, au spectaculaire, à la télévision avec Le Procès. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là d'un monde qui serait presque anti-littéraire ?
Non, j'ai pas du tout cette impression. Il y avait beaucoup beaucoup de choses dans mon lit. J'avais beaucoup beaucoup de données, donc j'ai pas tout mis. Quand vous me dites ça, par exemple, je me dis parce que Amber Heard, par exemple, elle lit beaucoup. Il y a beaucoup d'histoires sur elle.
Ça n'apparaît pas du tout.
Ah ouais, c'est ça. Il y a beaucoup d'histoires sur. Vous savez, il y a beaucoup de choses que j'ai pas pu mettre, mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de photos d'elle qui descend d'un avion avec un livre dans la main.
Ah oui, donc à contrario à ce que j'ai comme sensation.
Oui, tout à fait. Sur des tournages de films, il y a des photos d'elle, elle se maquille, elle tient un livre dans sa main. Donc voilà, elle lit beaucoup, et je pense que Depp aussi, mais c'est vrai que je me suis pas intéressée, ou en tout cas, j'ai pas développé là-dessus.
Mais parce que vous avez développé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Vous parlez de photographie avec des livres à la main. Ça fait longtemps qu'on n'a pas évoqué cette question-là du questionnaire lecture qui était très récurrente avant.
D'accord.
Est-ce qu'il existe une photo de vous avec un livre dans la main à n'importe quel âge ?
Pas que je me souvienne. Je vois pas de... Il doit en avoir, parce que ma sœur et moi, mes parents avaient deux fauteuils. On s'assoyait dans un fauteuil pour lire. Je suis sûre que mes parents ont dû prendre des photos de moi. On s'assoyait chacune dans un fauteuil. On imitait nos parents, en quelque sorte, dans un fauteuil. On lisait. Il doit avoir des photos de moi comme ça. Mais j'en ai pas. Vous voyez, vous me dites ça, j'ai pas une photo.
Oui, enfin, c'est ça qui vient, en tout cas.
C'est ça qui revient. Ouais.
On va parler de votre livre à vous, Toronto, Elisabeth Benoît, qui met en scène donc ce folle procès. Ces folles procès qui opposent Johnny Depp à son ex-femme Amber Heard, juste après cette chanson que la comédienne interprète dans le film One More Time, sorti en 2015. Les paroles de la chanson offrent de drôles d'échos avec l'histoire dont s'empare votre roman. Elle chante « Ce cœur est fou, il n'a jamais fonctionné correctement, il bat si fort qu'il m'empêche de dormir et me force à sortir du lit, il aspire à des choses auxquelles il n'a pas le droit et aucun whisky ou vin ne peut l'assommer. »
Whatever. This is a song that I wrote. Oh, this heart is a foolish one. It's never worked right. Loudly it keeps me awake in the night, and it forces me out of bed, pacing my floor instead, longing for things to which it has no right, and no whiskey or wine can assuage.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Un mariage, deux procès, un livre et une foule de détails au programme de votre book club aujourd'hui. Les acteurs Amber Heard et Johnny Depp se sont rencontrés en 2012, mariés en 2015, ils divorcent en 2017. À peine quelques années plus tard, deux procès espacés de 2 ans. Le premier est intenté par l'acteur contre un tabloïd anglais qui l'accuse d'être un mari violent. Le second, dans lequel les deux parties s'accusent mutuellement de diffamation, est diffusé en direct à la télévision américaine, suivie par des millions de téléspectateurs. Les débats tentent d'y faire la lumière sur les accusations de violence. Le tribunal estime au final que le préjudice subi par Johnny Depp est le plus grand. J'étais complètement obsédée par cette histoire de détails, dit la narratrice de votre nouveau roman, Elisabeth Benoît, qui tombe, on pourrait dire, dans le tourbillon d'Internet, va de lien en lien, clique, compulse les verbatims des dépositions, les copies de SMS, les témoignages. Le sordide de ce couple qui se déchire ne fait qu'accentuer sa fascination et la puissance fictionnelle de l'histoire. Il était possible, je cite encore votre narratrice, à partir de tous ces fragments, de construire tellement d'histoires différentes, mais c'est moi qui décide, putain, dit la narratrice de ce livre Toronto, qui a paru aux éditions POL. C'est un roman qui a fait du bruit jusqu'aux informations françaises. On écoute tout de suite un extrait d'un journal France Inter, diffusé en avril 2022.
C'est un grand déballage public qui a lieu en ce moment devant le tribunal de Fairfax en présence des deux intéressés, Johnny Depp d'un côté, Amber Heard de l'autre. Cette semaine, c'est sans broncher que l'actrice a écouté une psychologue la décrire comme une femme pleine de rage à la personnalité borderline. Son ex-mari l'accuse, elle, d'être violente et nie l'avoir jamais frappée.
Never. Did I myself
Jamais je n'ai atteint le point où j'ai cogné Madame Heard d'une façon ou d'une autre, ou toute autre femme d'ailleurs. Un jour, c'est une image, vous êtes Cendrillon et une fraction de seconde plus tard, vous devenez Quasimodo. Je ne méritais pas ça. Johnny Depp réclame 50 millions de dollars à Amber Heard. Elle demande le double, également pour diffamation, et devrait bientôt venir à la barre, comme lors d'un premier procès à Londres en 2020. À l'époque, l'actrice avait parlé d'une douzaine d'agressions et évoqué un monstre transformé par la drogue et l'alcool. Une affaire qui va faire encore quelques semaines les choux gras de la presse à scandale. New York, Loïc Loury, France Inter.
Un extrait d'un journal d'information diffusé sur France Inter en 2022. Elisabeth Benoît, votre narratrice, elle, découvre l'affaire dans un article du Monde et immédiatement sent monter en elle une sorte de curiosité qui va presque devenir une sorte de forme, de monstre, d'entité, cette curiosité-là exponentielle. Est-ce que vous vous souvenez, vous, du moment où vous vous êtes branché sur cette histoire ?
Oui, c'est que, ben, comme je le raconte au début du livre, c'est vraiment, je suis tombée sur un article qui résumait un peu l'histoire. J'ai regardé un petit peu en me disant que j'allais regarder 5 minutes, quoi, parce que j'ai une petite curiosité comme ça des fois pour des histoires comme ça. Et en fait, ce qui m'a happée dans cette histoire, c'est le fait qu'il y avait des vrais documents. Donc c'est vraiment ça que j'ai commencé à découvrir sur Internet et de façon extrêmement fragmentée. Parce qu'il existait sur Internet, sur des sites, il existait les documents dans leur intégralité.
Je fais juste une petite parenthèse. Vous saviez tout à fait qui était Johnny Depp et qui était Amber Heard et vous connaissiez ce couple?
Je les connaissais très vaguement. Johnny Depp, je savais qui ils étaient. Et j'avais entendu parler de cette histoire de violence conjugale en 2016. Donc je me rappelle que là, j'avais pas lu l'article. Là, j'avais dit non. Voilà, j'avais vu l'article et ça m'était resté en tête.
Quand même.
Ça m'était resté en tête. Je me souviens, vous savez, du moment où j'avais vu l'article.
Ouais. Okay.
Et voilà, mais j'ai pas cherché à en savoir plus loin. Et j'y ai repensé quand je voyais Johnny Depp. J'avais cette chose-là en tête.
Donc là, vous lisez.
Et donc là, je lis ça et je tombe sur... des documents. Alors, en fait, moi, au début, je tombe sur les documents sur Twitter. Donc, c'est des gens, ils citent un petit bout d'un document et ils disent pas d'où vient le document. Donc, il y a comme une sorte de comme ça, j'essaie de retrouver, de retracer le fil. Et donc, du coup, je suis rentrée dans une sorte de... Voilà, comme ça, peut-être pas d'enquête, mais j'ai essayé de rassembler les informations qui étaient très, très fragmentées. J'avais juste vraiment... un petit bout là, un petit bout là, un petit bout là.
Oui, il n'y avait pas un équivalent d'un Wikileaks du procès Heard et Johnny Depp.
Il y en a un aujourd'hui, un site où il y a tout. Il y avait des sites où il y avait des choses, mais ça, il a fallu que je les trouve. Et même là, ce n'était pas aussi organisé que ce l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus organisé.
Et immédiatement, il y avait un projet romanesque derrière où au départ, ça n'est que votre propre curiosité et celle de votre narratrice dont vous faites d'emblée une sorte de double Elisabeth Benoît.
Oui, c'est ça. C'était en fait... Je me suis dit, ah voilà des vrais... parce qu'il y avait aussi des enregistrements. Mm-mm. Et donc je me suis dit, ah voilà des vraies conversations. J'ai vraiment trouvé ça hyper intéressant parce que j'ai déjà essayé par exemple d'écrire du théâtre, de faire des dialogues. Ça marchait pas tout à fait. En fait, je faisais un peu un truc où la personne parle, l'autre répond. C'était un peu absurde. Et là, tout à coup, j'avais l'impression de voir l'anatomie d'une conversation. D'une conversation qui tournait en rond, des choses comme ça. Donc, tous ces documents, pour différentes raisons, sont mis à me happer. Mais au début, je ne voulais pas, si je reviens à votre question, je ne voulais pas écrire cette histoire-là. Je me suis simplement dit, ah voilà, je pourrais réutiliser ça, parce que c'est une vraie conversation, des choses comme ça.
Mais donc, je pourrais le réutiliser comme une sorte de modèle littéraire, de conversation, dans un futur livre ou dans une future pièce
de théâtre. Oui, c'est ça, je pourrais, s'il y a un petit bout que j'aime vraiment, que soudain j'y repense, vous voyez. Donc j'ai commencé un peu à puisque je venais de finir d'écrire un livre que j'avais décidé de ne pas publier, et que justement, je me disais, j'ai pas assez de détails et tout ça. Et là, soudain, j'ai vraiment eu l'impression de tomber sur une mine d'or. Quoi, parce qu'il y avait des conversations, tout ça, et voilà.
À partir de quand vous considérez que ce travail-là de recherche, de plongée dans les arcanes d'Internet va occasionner une écriture plus romanesque?
J'ai l'impression d'avoir passé un été... et qu'au bout de l'été, peut-être au mois de novembre, j'ai vaguement 2 ou 3 mois. Ça m'a pris 2 ou 3 mois, quand même, vraiment de recherche presque quotidienne avant de me dire. Au début, je me suis dit, je vais écrire une histoire, mais je vais tout maquiller, mais je vais tout retransformer, quoi.
Et au final, non, puisque restent bien sûr les noms à la fois des deux grands protagonistes, Johnny Depp et Amber Heard, mais aussi de toute la cathédrale de personnages que vous faites graviter et qui gravitent de manière factuelle autour du procès. Il y a plein de voix. C'est vraiment un travail aussi sur... vous parliez d'enregistrement, mais il y a un travail de langue, de oui. langue orale. Mais juste un instant, Elisabeth Benoist, sur le moment où ça devient un projet littéraire, un projet romanesque, il faut trouver la voix de votre narratrice. Elle arrive comment et elle a quoi comme position par rapport à vous, autrice et enquêtrice derrière l'ordi? C'est la même ou c'est pas exactement la même?
C'est plus ou moins la même. Et ce qu'il faut dire, c'est que j'ai commencé par écrire le texte sans narratrice. Donc j'avais juste fait une sorte de... Voilà, c'était simplement les documents, mais sans explication. Sans narratrice. Donc la narratrice est vraiment arrivée après. Voilà.
Et pourquoi est-ce que ça vous a paru nécessaire?
C'est mon éditeur qui m'a demandé. Lui, il l'a lu et m'a dit, j'ai l'impression qu'il manque quand même un... Voilà, il
manque... Au départ, c'était que les gens qui parlent ouais. d'Amber Heard, Johnny Depp, leurs disputes, l'avancée du procès, les témoignages, ouais. l'immeuble dans lequel ils habitent.
Exactement. Et c'est venu par la suite. Moi, j'ai vu ça quand même pas mal comme au début, vraiment comme du théâtre. Vous savez, quand vous allez au théâtre, vous voyez des scènes un peu, une scène, il y a un noir, une autre scène, c'est un peu inexpliqué. Donc moi, au début, c'était un peu comme ça que je voyais l'histoire. Mais finalement, bon, voilà, j'ai ajouté ce passage-là qui peut-être qui unifie, qui explique. Tout ça.
Et qui permet aussi d'avoir une réflexion sur ce qu'elle est en train de faire, cette femme,
oui.
sur la fascination, pour part un peu morbide, dégueulasse, mais en même temps humaine, pour les,
oui,
les histoires
ça.
Qui tournent mal, pour les oui. couples qui se séparent, pour ce qu'on appelle les faits divers. Il y a aussi ça que permet quand même de tisser votre narratrice.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et je pense que dans mon texte, il y avait vraiment une... Aussi, j'ai vraiment été fascinée, à la fois dans les conversations et avec les témoignages et tout ça. Vraiment, comme vous dites, il y a des détails psychologiques, ça, mais c'est vraiment le réel qu'il y avait derrière. Je trouvais que ça donnait à tout ça une qualité que moi, je recherchais. Et j'ai eu l'impression soudain que j'avais cette qualité-là devant moi dans ces documents, qu'elle était là. Et je donne des exemples très simples. Hein. C'est par exemple quand il y a les dialogues, des fois on ne sait pas de quoi ils parlent. Mm. Et c'est pas clarifié. Donc c'est vraiment un univers qui s'ouvre. On voit une scène. C'est vrai qu'on est voyeur, on voit la scène et tout ça, mais il y a tout un espace derrière. Qu'on ne voit pas et qui est suggéré de façon très, très subtile parce que c'est la réalité, parce que ces gens-là, ils font pas ça pour le lecteur, quoi. C'est vraiment une vraie scène.
Parce qu'il faut dire qu'une particularité de cette histoire, c'est qu'ils s'enregistrent beaucoup les uns les autres.
Oui.
Les disputes sont enregistrées. Il y a ensuite des SMS qui sont sortis des portables, des échanges mails entre, par exemple, Johnny Depp et des amis,
oui.
des témoignages ou des carnets de notes de la thérapeute de couple qui vont voir. Mais il y a aussi ce truc de prise sur le vif de leurs disputes, comme si le théâtre et le cinéma ne s'arrêtaient jamais, presque comme s'ils avaient produit eux-mêmes leur propre preuve, leur propre pièce à conviction, Elisabeth Benoist.
Oui, c'est vrai, il y a un côté très mystérieux. Bon, en même temps, on peut comprendre, ils s'enregistraient pour à des fins thérapeutiques ou pour essayer de pouvoir revenir sur la conversation. Mais c'est vrai qu'ils ont ajouté à cette quantité de données incroyables quoi, qui a été diffusée lors du procès. Oui.
Vous faites tout un travail de réécriture. Vous allez nous dire comment, à partir de différents enregistrements, témoignages, dépositions, ici, on entend la voix d'un des concierges de cet immeuble assez incroyable dans lequel vit le couple. C'est Alejandro Romero.
Alejandro Romero. Bon, écoutez, je ne veux plus rien savoir de cette histoire. Je suis fatiguée. Je ne veux plus entendre parler de ce procès. Tout le monde a des problèmes et je ne veux plus en entendre parler. J'en ai par-dessus la tête de ce procès. Mais bon, puisque vous insistez, non, Je n'ai vu aucune marque sur son visage. Si j'avais vu des marques, je me rappellerais, parce que, comme je vous ai déjà dit, je regarde toujours dans les yeux les gens à qui je parle. Je ne cherche rien, je ne cherche pas « Oh, ton maquillage est raté, tes sourcils, tu as changé tes sourcils, ton mascara n'est pas égal ». Je ne cherche rien, je regarde juste les gens droit dans les yeux. Et donc non, je ne me souviens pas si Amber portait du maquillage. Le maquillage aurait pu couvrir des marques, mais pas les gonflements. Quand je parle à Amber et Rocky, je les regarde dans les yeux. Je ne cherchais pas de marque ou quoi que ce soit d'autre. Mais ce genre de truc, c'est très remarquable. Je ne cherchais rien, mais si j'avais vu des marques, je m'en souviendrais. J'étais plus concentrée sur mon boulot, vous voyez. Obtenir les clés qu'elle demandait. Je leur ai donné les clés et elle parlait. Je lui ai dit « ton chien ». Je parlais à Rocky parce que son chien était sorti de son appartement. C'était un des trucs qui me préoccupait. Je lui ai dit « tu sais quoi ? J'ai vu que ton chien est sorti de ton appartement. Tu ne veux pas que je m'en approche trop, et donc il est toujours quelque part dans le couloir, dans le penthouse. Il n'y a pas à s'inquiéter pour le chien. » Parce que, comme je lui ai dit, le penthouse est toujours très calme, et Monsieur Depp possède tout l'étage, et donc tout va bien pour le chien. C'était une des choses qui me préoccupait, parce que ça faisait partie de mon boulot.
Un extrait de votre livre Toronto, Elisabeth Benoît. Comment est-ce que vous avez travaillé cette matière-là pour arriver à ce texte littéraire ?
Premièrement, ça, c'est un de mes passages que j'aime beaucoup, le passage d'Alexandre Romero, justement parce que c'est ces phrases qui s'arrêtent en plein milieu, quoi.
Cette manière de tourner, c'est de revenir, ça. Le fait que ce soit d'un seul coup imprimé sur une page nous montre aussi nos propres circonvolutions dans le langage, maladresse, répétition.
Tout à fait. C'est une des choses qui m'a préoccupée principalement en écrivant ça, c'est vraiment le langage parlé. Alors, à la fois, il y a des témoignages qui sont des déclarations de témoins, donc là, c'est vraiment très écrit. Et puis, il y a les dépositions, effectivement, où là, c'est...
Mais là, vous les avez regardées et vous les avez retranscrites, ces dépositions ?
Non, j'avais toutes les dépositions par écrit. Donc par écrit, avec en plus ce qui n'a pas été présenté lors du procès. Donc on avait, mais là, ce que vous voyez par exemple d'Alexandre Romero, c'est bien une scène qui a eu lieu à Fairfax. Il a bien dit tout ça et
mais il l'a dit comment ? Enfin, vous l'avez écouté cette scène ?
Oui, je l'ai écouté et je l'ai lu. J'ai commencé par l'écouter, donc je l'ai vu.
Et ensuite,
en
vous l'avez
direct.
Retravaillé.
Ouais, je l'ai retravaillé et. Parce que justement, il y a toutes les minutes du procès qui sont disponibles sur Internet. Donc, on a tout le texte sur Internet, ce qui est beaucoup plus facile, qui était plus facile pour moi.
Quand vous dites ce qui vous a intéressé dans ce roman qui est long, c'est vraiment un roman qu'on pourrait dire fleuve, même s'il se lit avec quand même beaucoup d'avidité et de curiosité, Elisabeth Benoît. Vous avez dit que vous vous intéressez à la langue parlée. Vous produisez aussi une sorte de grand chœur. Enfin, il y a une sorte de polyphonie, puisque à chaque fois, on entre, on l'a entendu dans la voix de Mathilde Wagman par le nom. Et petit à petit, on connaît aussi qui est qui, parce qu'il y a un répertoire de personnages au début du livre. Et ça fait comme une sorte de brouhaha, en fait, des voix parlées autour de ce couple-là.
Tout à fait. Au début, j'ai essayé de faire une seule voix. Et je me suis rendu compte, finalement, que ce qui était... Au début, j'ai vraiment voulu recréer cette étrangeté que j'avais éprouvée sur Internet quand j'ai découvert ces documents. Et où j'ai commencé par me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. D'où ça sort? Comment est-ce possible qu'on ait tout ça, quoi? Et donc, toutes ces voix qui parlent comme ça, voilà, pour moi, ça, c'était une façon, d'une certaine façon, de recréer cette étrangeté. Mais aussi parce que je me suis rendu compte à un certain moment que chacun avait son point de vue et que c'était pas possible. Premièrement, j'avais pas envie d'écrire à la troisième personne, impersonnelle, mais que c'était vraiment important. Le point de vue de chaque personne était important dans cette histoire-là. Et je crois à la fin que le point de vue de la narratrice, c'est pas.
Prédominant.
C'est un point de vue. Il rentre. Il est au même niveau que les autres, quoi. Il est pas. Il domine pas.
D'ailleurs, c'est finalement ce qu'on, en avançant dans la lecture, ce qu'on ressent nous aussi, c'est que sur une même scène, sur un même épisode de quelques jours dans une villa, ou je sais pas, par exemple, je pense à un moment où Johnny Depp a un bout de doigt arraché ou coupé, c'est comme si on pouvait le regarder avec plein de caméras différentes et selon qui il raconte et dans quel intérêt et pour défendre quelle thèse, bah ce bout de doigt il a été coupé ou ramassé ou cherché. Il y a vraiment l'idée que, et c'est ça qui est un peu vertigineux, c'est que c'est très difficile d'atteindre la vérité, quoi, d'atteindre un truc un peu solide dans cette histoire.
Tout à fait. Et je trouve que ça crée vraiment, ça participe autant comme le fait que les gens parlent en s'arrêtant, en revenant, tout ça, le fait que personne ne dise la même chose. Même les gens.
Jamais, quoi.
Même les gens qui défendent la même thèse, ils disent pas la même chose. Et donc, ça crée vraiment, ça aussi, c'est une chose qui m'a beaucoup intéressée, justement parce que ça recrée un effet de réel.
Parce que quoi, dans la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire
dans
que
la
personne,
vie, c'est comme
personne
ça.
N'a jamais la même version des faits.
C'est ça. Et du coup, maintenant, si, je ne sais pas si... J'ai l'impression qu'il ne faut jamais que ça soit... on a peut-être tendance, des fois, quand on écrit de la fiction, à vouloir que ça matche.
Que ce soit concordant, comme on dit.
Mais vraiment, en lisant ça, je me suis dit, mais ça ne coïncide jamais.
Le réel, ça coïncide jamais.
Ouais, c'est ça.
On va écouter la voix du romancier Philippe Génada, qui a écrit beaucoup, lui aussi, et souvent à partir de faits divers, ici dans une archive de 2024, au micro d'Eva Bester, dans l'émission La 20e heure sur France Inter.
Le travail de recherche qui me prend un an et demi, deux ans de documentation... Si j'étais historien, journaliste, je ne sais quoi, ça serait exactement le même travail. J'oublie que je suis romancier, je cherche juste à trouver le plus de documentation possible, quel que soit le temps que ça me prend. Et une fois que j'ai tout, à partir de là, j'arrête, je ne cherche plus du tout, j'écris le livre. Il faudrait un jour faire l'expérience de donner la même matière première à cinq bons auteurs ou autrices. Il y aurait cinq livres absolument différents, une aurait 220 pages et d'autres 2000 pages. Qui commence par le début, d'autres la fin. Bref, c'est une période courte, mais qui est pour moi, qui fait partie vraiment intégrante de mon vrai travail d'écrivain.
J'avais utilisé des témoignages tels quels, j'avais utilisé de vrais mails, de vrais SMS, j'avais utilisé des rumeurs pour inventer des passages, j'avais ajouté un personnage qui n'existait pas, j'avais habillé des gens avec des vêtements qu'ils n'avaient jamais portés, j'avais comblé certains trous avec des inventions. Et ensuite, lorsque j'avais appris ce qui s'était vraiment passé à tel ou tel moment, je n'avais pas ajusté mon histoire. Je savais que c'était faux, mais je n'avais pas ajusté mon histoire, parce que c'était mon histoire, c'était moi qui décidais, nom de Dieu. C'était moi qui décidais.
Un nouvel extrait de votre livre, Elisabeth Benoît, Toronto, juste après la voix de Philippe Génada, qui parle du gigantesque travail de documentation qui précède l'écriture, souvent un ou deux ans, dit-il. Et il dit on devrait faire l'expérience de donner exactement la même somme de documents à des autrices ou des auteurs, et on aurait évidemment des livres différents. Juste après, dans cet extrait, c'est ce que semble ressentir, et presque ce dont semble jouir votre narratrice, c'est-à-dire que à la fin des fins, c'est elle la démiurge dans l'affaire. C'est elle qui met en scène tout le monde, c'est elle qui tire les ficelles. Tout à l'heure, vous avez dit « elle n'a pas de voix prédominante par rapport aux autres ». Quand même, non ? Il y a quelque chose qui se dit aussi de la figure de l'auteur ou de l'autrice dans votre texte.
Oui, en même temps, quand j'ai écrit ce passage-là, j'avais un peu l'impression... de quelqu'un qui affirme quelque chose. Vous savez, quand vous dites, mais ça me dérange pas du tout.
Oui,
mais
je n'y crois pas complètement.
Ça me dérange pas. Non.
Elle est beaucoup plus fragile que ce qu'elle semble affirmer.
Et donc, c'était une, parce que, effectivement, lors de l'histoire, ces documents réels ont, comme je disais au début, je voulais tout fondre ensemble. Donc, ils ont comme, c'est comme si c'est eux qui, les documents.
Qui sont les plus forts.
Qui étaient les plus forts. Mais quand même, je dis non, mais c'est quand même moi qui décide. Donc, il y a un petit côté un peu, je sais pas si ironique est le bon mot, mais voilà.
Parce que le fait que vous ayez choisi de faire de votre narratrice, elle aurait pu être plein d'autres choses que l'autrice. En fait, oui. Elle est aussi en train d'écrire un livre, donc elle nous raconte aussi ce dont est fait la pulsion d'écrire, ce dont est fait la manière dont le texte, en partant du réel, produit quelque chose de l'ordre de la machine romanesque ou de la fiction. Et puis, elle dit en parallèle que ben, y a elle, mais il y a les millions de téléspectateurs qui suivent ce procès à la télévision américaine et les millions de gens qui ont cliqué sur les mêmes sites que vous, Elisabeth Benoît. Donc, il y a aussi quelque chose que vous nous racontez d'un monde contemporain ou d'un monde de tout le temps qui est notre fascination pour les histoires.
Tout à fait. Et d'un côté, je pense que cette histoire, elle a fasciné les gens pour différentes choses, mais aussi parce que l'histoire était disséminée voilà, un peu partout sur Internet et que tout le monde a raconté l'histoire à sa sauce. Et je pense que le fait que ça soit tellement fragmenté et difficile...
De rassembler.
C'est bête parce que finalement, c'est pas une si grande histoire si on compare à beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est très, très difficile de tout rassembler.
Alors, à quoi ça tient cette fascination, selon vous ? Elle avance quelques pistes, hein, la narratrice, mais qu'est-ce qui fait que cette histoire-là, par exemple, a vraiment happé les gens ? Et votre narratrice.
Après, je pense qu'il y a eu différents types d'intérêts pour cette histoire-là. Il y a eu des bon voilà. Moi, les gens que j'ai croisés, tout ça, c'était vraiment les obsédés des détails. Quoi, c'était vraiment le truc du détail. Et du coup, j'ai l'impression que je pense que je l'ai dit dans le livre, mais que les gens avaient l'impression qu'ils pouvaient enquêter, qu'ils avaient suffisamment de documents pour enquêter, qu'ils pouvaient reconstituer des événements, des choses comme ça. Donc, je pense que en partie,
c'est cette passion-là.
Oui.
Plus.
Oui. Je dis pas que c'est seulement ça.
Non, parce qu'il y a quand même aussi l'ingrédient. Vous parliez du théâtre, mais il y a l'ingrédient une histoire d'amour.
Tout à fait.
Ingrédient une histoire d'amour qui tourne très mal.
Tout à fait.
Ingrédient célébrité.
Oui.
Ingrédient oui. Violence.
Oui.
Sordide. Enfin, il y a quand même beaucoup d'ingrédients.
Oui, tout à fait. Et ça fait partie de parce que moi, quand j'ai vu cette histoire-là. Au début, quand elle a commencé, disons, à apparaître devant moi, j'ai vraiment vu une sorte de mélange des genres. Donc, à la fois une sorte de, voilà, de roman à sensation, par exemple, ou de tirer des journaux à sensation et des choses comme ça, mais avec un travail en même temps sur les dialogues qui n'ont rien à voir avec les journaux à sensation, des choses comme ça, un côté. Moi, pour moi, il y a des passages, notamment le passage en Australie, il y a un côté drôle pour moi dans ce passage-là. Donc, il y avait tout un ensemble comme ça de ça, pour moi, ça a toujours été un truc multifacette. J'ai trouvé dans ce truc-là, je sais pas pourquoi, c'est comme si je l'avais trouvé. Un truc que j'avais trouvé, il y avait plein de facettes.
Vous avez commencé cette émission en disant je cherche le livre, là, il était trouvé, quoi.
Ben oui, c'est ça, il y a un truc comme ça, quoi.
On va écouter la voix de Fabrice. Il a lu votre livre et il vous pose une question, Elisabeth Benoît.
Bonjour les Book Club, bonjour Elisabeth Benoît. J'ai lu Toronto un peu comme on tombe sur une vidéo de chat à 3h du matin. Je n'étais pas du tout le public cible, je n'avais absolument rien suivi de cette affaire Johnny Depp-Amber Heard. J'ignorais tout et je vais même aller jusqu'à vous dire que je m'en tamponnais le coquillard. Et pourtant, j'ai vu sur le bandeau 500 pages sur Johnny Depp et Amber Heard et j'y suis allé. Et je n'ai pas lâché, je l'ai dévoré ce livre comme une série documentaire Netflix avec ses témoignages réels, ses SMS reproduits, ses extraits d'enregistrement toujours stupéfiants, parfois affligeants. Ce qui nous absorbe finalement, c'est que Elisabeth Benoît ne raconte pas vraiment l'histoire. Elle l'assemble, elle la bricole, elle la découpe. Et finalement, elle dit peu de choses d'elle. Alors ma question qui s'adresse à Elisabeth Benoît, ce serait la suivante. Pourquoi elle a fait le choix d'uniquement se concentrer vraiment sur l'affaire ? Et pourquoi elle n'a pas souhaité en dire plus sur elle, sur ce qui l'a intéressée, sur ce qui l'a amenée à être complètement focalisé sur cette histoire. Et finalement, ça me permet aussi de m'aider à me comprendre moi aussi, qu'est-ce qui m'a amené aussi à plonger dedans. Merci, bonne journée, au revoir.
Merci beaucoup Fabrice pour cette lecture et pour cette question, Elisabeth Benoît. Alors finalement là, depuis le début de l'émission, vous dites quand même ce qui vous a intéressé dans cette histoire-là. Est-ce qu'il aurait été une des pistes, t'en dire davantage? Et moi, ce que je trouve assez beau dans la question de Fabrice, c'est plutôt le miroir que tend le roman à celles et ceux qui s'y plongent et qui y trouvent délectation de pourquoi.
Oui, d'abord merci beaucoup pour la question. Et oui, si j'en ai pas écrit plus, je pense que c'est aussi parce que c'était, j'ai l'écrit à la fin, ce texte-là. Et
le personnage de la narratrice,
oui,
vous
c'est dire. Ça. Et j'aurais pu éventuellement en mettre plus. C'est vrai que par la suite, j'ai quand même des idées qui me sont venues. Après, le miroir...
On est quand même obligé de se demander, Elisabeth Benoît, pourquoi est-ce qu'on regarde ça?
Oui, je comprends.
Cette narratrice qui passe des heures, des jours, des nuits à cliquer sur tous les enregistrements.
Oui, bien sûr. Comme je vous dis, moi, j'ai été sidérée qu'on ait accès à cette information. J'ai une obsession avec la société de la surveillance. Quoi. J'ai toujours... plus ou moins un peu l'impression d'être surveillée. Donc, il y a un peu de ça. Ben, évidemment, il y a du voyeurisme.
Eux-mêmes se surveillaient beaucoup, on l'a dit.
Ouais. Et je pense... Je pense qu'il y a... C'est une histoire très complexe. Je pense que aussi, peut-être avec les séries, des choses comme ça... Moi, en tout cas, j'éprouve parfois... je regarde des séries, tout ça, mais j'éprouve une certaine fatigue. Les choses qui sont prévisibles, qui sont plus convenues, des choses comme ça. Alors, j'ai l'impression que là, soudain, on est dans une histoire qui déploie sa complexité. On sait que c'est pas parce que c'est le personnage principal qui va pas mourir, mais je veux dire, on peut pas. Tout est possible. Donc Et moi, quand j'ai sur Internet, j'ai eu vraiment l'impression qu'il y avait quand même une sorte de les gens sur Internet. Si on sort du roman, là, on parle simplement du truc. Il y avait une sorte de truc collectif, quoi. C'est vraiment une histoire. On ne sait pas ce qui va arriver. C'est très dilué dans le temps. Je veux dire, il y a une chose qui se passe et puis tous les gens sont fixés là-dessus. Mais il y a juste un autre micro événement qui se produit, une décision de la juge un mois plus tard. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais...
En partie. Ouais. On n'a pas jusqu'à maintenant parlé de ce titre que vous choisissez, Toronto,
ouais.
Qui est une ville qui revient dans les témoignages, dans les récits de disputes et de violences entre Johnny Depp et Amber Heard, mais qui fait aussi signe vers le continent américain. Elisabeth Benoît, pourquoi ce titre-là?
Au début, j'avais un autre titre. Et finalement, que mon éditeur m'a demandé de changer. Et j'avais vraiment pour moi, Toronto, c'était vraiment le mot aveugle, le mot qui était le symbole de cette histoire où finalement, il y a tout ce qu'on voit, on en voit beaucoup, mais il y a beaucoup de choses qu'on voit pas.
Moi, vous avez parlé beaucoup du hors-champ, oui.
C'est ça, du hors-champ. Et donc, Toronto, c'est le hors-champ parce que...
Pourquoi?
Surtout au début, en 2020, il n'y avait pas tous les enregistrements qu'il y a eu à Fairfax. Donc, il y avait un enregistrement d'une dispute. Et il disait, mais après ce qui s'est passé à Toronto, j'ai des choses comme ça. Mais on ne savait pas, justement, ce truc-là, qu'on ne sait pas tout, on ne savait pas ce qui s'était passé à Toronto. Et pour moi, c'était le symbole de tout ce qu'on ne sait pas, quoi, qui reste hors champ.
Oui, et qui demeure insondable, mystérieux, bloc nocturne, parce que il y a des choses qui vont s'éclaircir petit à petit, notamment sur la peut-être l'enfance violentée des deux protagonistes, sur la dépendance de Johnny Depp à l'alcool et à différents médicaments, sur la déformation de certains faits par Amber Heard, sur ce milieu dans lequel ils évoluent, qui est si étrange autant de facettes qui pourraient nous donner l'impression qu'on va y voir clair, en fait, qu'on va pouvoir déblayer au milieu de toute cette matière, de ces milliers de détails, Elisabeth Benoît, et comprendre, en fait, le surgissement de la violence et le fait qu'il n'y arrive plus, il n'arrive plus à s'aimer. Or, ça fait toujours retour, c'est-à-dire qu'il y a toujours des moments où ils ont des scènes, où ils se redisent qu'ils s'aiment, justement, où c'est hyper incompréhensible, on ne sait plus où ils en sont, on ne comprend pas pourquoi ils veulent se quitter, s'ils veulent se quitter, est-ce qu'il y a eu violence, est-ce qu'il n'y a pas... Ça demeure très, très opaque jusqu'au bout, quoi.
Oui, tout à fait. Et comme je disais, c'est ça qui m'a... C'est quand... Voilà, on sent le tremblement, qu'il se passe quelque chose à l'intérieur, quoi. Par exemple, justement, quand il y a des sortes d'allers-retours, oui, non, et on peut seulement l'imaginer si on a déjà été dans des situations semblables, mais on ne sait pas, quoi. On sent tout le tremblement derrière ces mots-là.
Vous parliez tout à l'heure du « en dehors de votre livre », c'est-à-dire la société qui s'est emparée de cet affrontement juridique. Et il y a eu ce qu'on a appelé les pro-Depp, les pro-Heard, les gens ont choisi leur camp. À un moment donné, la narratrice dit que, contre toute attente, d'une certaine manière, elle est devenue une pro-Johnny Depp.
J'étais devenue ce qu'on pourrait appeler une pro-Depp, même si je n'avais en réalité jamais fait partie de la bande, ou plutôt du noyau dur de la bande, qui n'avait rien à voir avec la bande qu'on avait vue dans le documentaire diffusé par Netflix sur cette affaire. Plutôt une bande de gens assez studieux, surtout des femmes, mais pas que, qui consultaient et commentaient les pièces du dossier, et dont certains interagissaient régulièrement avec les pro-Heard, les échanges allant d'un extrême à l'autre, de la discussion purement factuelle, mais dans cette histoire, tous les faits étaient sans cesse contestés, à la dispute de cours d'école, avec les couteaux qui volaient parfois assez bas. Les pro-Depp sont tous vieux et laids, les pro-Heard sont des ados boutonneux, pourquoi tu le défends, il te baisera jamais, ma pauvre, etc., etc. De mon côté, j'étais toujours restée à la périphérie. J'avais bien écrit quelques tweets et quelques répliques, passées la plupart du temps complètement inaperçues, retweetées avec le tag « Justice for Johnny Depp », jamais par principe le tag « Amber Heard is a liar », trop offensif à mon goût, mais informatiquement parlant, je faisais partie des pro-Depp.
Un nouvel extrait et de nouveau la voix de cette narratrice, Elisabeth Benoît, qui se surprend presque. En tout cas, on a l'impression qu'elle ne part pas, elle ne s'embarque pas dans cette curiosité obsessionnelle avec un prérequis sur qui aurait raison. Est-ce que, c'est vraiment l'étude. Elle parle là des studieux, mais c'est vraiment l'étude qui l'a fait progresser vers... l'idée que, tout comme la conclusion de la justice d'ailleurs, hein, que la diffamation aurait été plus préjudiciable à Johnny Depp, pour dire les choses comme ça. Pourtant, on sait qu'il y a tout un pan, notamment aux États-Unis, masculiniste, misogyne, qui s'est emparé de ce procès pour travailler une figure de Amber Heard terrible, la femme qu'il faut combattre, les femmes qu'il faudrait combattre. Et on sent que le positionnement de la narratrice est bien plus subtil que ça, beaucoup plus sur la crête, et pourtant pas si facile à embrasser. Comment ça s'est passé pour vous, l'apparition de ce chapitre-là et de ce positionnement de votre narratrice ?
Oui, effectivement, je pense que c'est une histoire où c'est ni noir ni blanc. Et donc j'ai raconté l'histoire telle que je l'ai vue, telle que j'ai fini par la voir, mais c'était, et ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de la recherche, mais c'était
qu'est-ce
pas...
qui fait partie de la recherche, c'est-à-dire à un moment donné de réussir à produire sa propre vision de l'histoire?
Non, c'était pas de réussir, parce que je pense pas que le but c'est de réussir, et je pense qu'il y a des histoires où on y arrive pas, quoi, et c'est peut-être les plus intéressantes, je veux dire, quand on n'arrive vraiment pas à déterminer ce qu'on pense. Mais je pense que dans mon parcours, j'ai fini par avoir une opinion Et ça fait partie de l'histoire, donc j'en ai parlé, mais c'était pas le, c'est pas le propos du livre, et surtout pas des, je veux dire des, je suis féministe et tout ça, et je veux dire c'était pas du tout, voilà, j'ai les histoires de masculinistes américains, vous savez, ça me fait, voilà, ça
hérisse les poils.
Ça hérisse, ce que je veux dire, c'est pas du tout. Mais voilà, j'en suis venue à et ça m'a, j'ai trouvé ça difficile de le dire, mais voilà, j'étais rentrée dans l'histoire, j'y avais mis tellement et je me suis dit bon, je vais faire avec. Mais voilà. C'est venu comme ça.
Quand vous dites je suis rentrée dans l'histoire, on a presque, enfin, on vous voit presque Elisabeth Benoît dans une sorte de matière, quoi, comme un voyage aussi fictionnel, initiatique, un espèce de.
Oui.
Tout à l'heure, j'utilisais aussi au début la métaphore du tourbillon. Quand on en sort, ça fait quoi? On en sort dans quel état?
Ben effectivement, j'avais l'impression j'ai eu l'impression à la fin de vouloir m'en laver. J'avais l'impression d'être voilà, comme d'avoir besoin de me d'enlever les toxines, quoi, de
parce qu'il y en a pas mal.
J'ai bien aimé, hein, mais en même temps c'est très très prenant, mais à un moment j'ai vraiment quand ça a été fini, quand j'ai lu le livre de Steinbeck, des choses comme ça, de me laver. C'est vraiment ça que j'avais l'impression de me laver un peu de cette histoire.
Le Book Club continue.
France Culture, Le Book Club, Marie Richeux.
Et à cette heure-ci, comme toutes les semaines, on prend des nouvelles du livre grâce à la rédaction internationale de Radio France. Aujourd'hui, on se rend en Cisjordanie occupée avec vous, Amira Swilem. Bonjour Amira.
Bonjour Marie.
Amira, vous êtes...
Bonjour à tous.
Vous êtes à Ramallah, où vous couvrez l'actualité palestinienne. L'actualité littéraire chez vous cette semaine, c'est le prix Pulitzer qui a été décerné au poète palestinien Mossab Abo Toha pour une série de chroniques sur Gaza dans le journal New Yorker. Alors, nous voyons tous et toutes les images des bombardements israéliens sur Gaza, mais derrière les édifices détruits, il y a évidemment des vies, des souvenirs et parfois des bibliothèques. Et c'est ce dont vous avez voulu nous parler aujourd'hui, Amira.
Exactement. Cette semaine, je vous parle d'un autre écrivain palestinien. Il s'appelle Atef Abou Saïf. Il était jusqu'il y a peu ministre de la Culture ici. Atef Abou Saïf est Gazaoui et son appartement situé à Jabalia dans le nord de l'enclave palestinienne a été détruit. Atef Abou Saïf l'a annoncé à sa façon en disant « Ils ont même assassiné ma bibliothèque ». C'est le titre d'un texte qu'il a écrit récemment. « Ils ont assassiné ma bibliothèque comme si tout le reste ne comptait pas finalement ». 3000 ouvrages sont partis en fumée en quelques instants. Alors, qu'est-ce qu'on perd quand on perd sa bibliothèque? Eh bien, Atef Abou Saïf peut nous le dire. On perd une grande part de soi. On perd des témoins silencieux du cours de sa vie. C'est ce qu'il raconte. Aucun livre n'est là par hasard, dit cet écrivain palestinien, qui, en plus des classiques et des livres offerts par ses parents, a aussi perdu ses écrits de prison rédigés pendant la première intifada. Chacun de ses livres, en fait, est en quelque sorte une pièce d'un puzzle qui racontait un pan de sa vie. C'est un témoin de son passé qu'a perdu Atef Abou Saïf, mais aussi une certaine vision de l'avenir, car il caressait le rêve d'ouvrir une bibliothèque publique avec tous ses livres.
Et dans son dernier livre, qui s'appelle « Chronique d'un génocide », qui est non traduit en français encore, Atef Abou Saïf tient un carnet de bord quotidien alors qu'il est bloqué à Gaza au début de la guerre. Il y parle justement de sa bibliothèque et son besoin de lire.
Oui, alors on est au tout début de la guerre, hein, Marie, et dans certains moments difficiles, Atef Abou Saïf raconte qu'il s'allonge et qu'il réfléchit à quel livre il pourrait bien lire. Il retourne même à un moment dans son appartement récupérer un peu de lecture. Il prend avec lui Anna Karenine, mais aussi des exemplaires de ses propres livres à lui, qu'il a à cœur en pleine guerre de laisser dans un hôtel, un peu comme s'il voulait laisser une trace de lui, au cas où. Alors, la perte de sa bibliothèque, il y était préparé d'une certaine façon, parce que cela est arrivé à certains de ses amis avant lui, et cela aussi, il le raconte dans son dernier ouvrage.
Au-delà de la perte personnelle, Atef Abou Saïf soutient que ces destructions participent à la guerre qu'Israël mène. Selon lui, c'est une guerre qui serait menée contre la culture et contre l'héritage palestinien. Qu'est-ce qu'il entend par là ?
Oui, alors là, Atef Abou Saïf s'exprime vraiment en tant qu'ancien ministre de la culture palestinien. Il est persuadé qu'au-delà des bâtiments, c'est aussi la mémoire palestinienne qu'Israël souhaite détruire. Il en veut pour preuve la destruction d'écoles, de bâtiments historiques, d'universités. Vous savez, il y a une photo qui avait beaucoup choqué ici. Elle montrait un soldat israélien dans une bibliothèque devant une rangée de livres incendiés. Ces destructions sont particulièrement douloureuses pour les Palestiniens, qui sont l'un des peuples les plus éduqués et diplômés du monde arabe, et qui voient vraiment la culture et l'éducation comme un moyen de résistance face à l'occupation israélienne. Alors face à ces destructions et à cette dévastation, il n'y a qu'une solution, selon Atef Abou Saïf. Je vous lis un extrait de son dernier ouvrage. Alors que je réfléchis à ce qui attend Gaza, si un quelconque futur l'attend, je ressens une obligation de continuer à écrire. En écrivant, il nous est possible de maintenir les endroits vivants. Il nous est possible de remettre en place les souvenirs que nous avons dans nos rues et nos maisons, désormais réduites en poussière et aplaties. Grâce à l'écriture, on peut non seulement éviter qu'elle soit oubliée, on peut aussi permettre qu'elle soit reconstruite à l'identique. Alors, vous le voyez, Marie, l'écriture comme digue face à la menace d'annihilation, c'est déjà ce que prêchait avant lui le grand poète palestinien Mahmoud Darwish.
Merci beaucoup, Amira Souilem. Lecture sans frontières à réécouter sur franceculture.fr. Et j'en profite pour dire qu'on vient de voir paraître un recueil de poésie de Mahmoud Darwish, La terre se transmet comme la langue, dans la collection Babel. À cette heure-ci, dans le Book Club, on joue au grand jeu des pages musicales. Il s'agit de chercher de la musique dans les livres et on vous propose évidemment de jouer avec nous. Le principe est simple. Dès que vous lisez un livre et que vous relevez l'évocation d'un air musical, sous quelque forme que ce soit, vous faites une photo du passage et vous nous l'envoyez ou bien via le compte Instagram du Book Club, @bookclubculture, ou bien via l'adresse mail suivante, leBookClub@radiofrance.com. C'est un auditeur qui joue avec nous aujourd'hui, il s'appelle Geoffrey. Il nous envoyait un extrait d'un roman qui s'appelle Le Remplaçant, paru en 2009 aux éditions de l'Olivier et signé Agnès de Sarthe. Quand j'étais enfant, mes parents passaient souvent sur la platine un négro spirituel dont le refrain était « Sometimes I feel like a motherless child », ce qui signifie « Parfois je me sens comme un enfant sans mère ». Dès que j'ai su un peu d'anglais, j'ai traduit pour moi-même cette chanson avec une faute révélatrice. J'entendais Sometimes I feel like a motherless child, quand je comprenais comme parfois je me sens comme une mère sans enfant. Je passais des heures à ruminer ce paradoxe dont finirait par surgir, pensais-je, un des grands secrets de l'humanité. C'était cela la vraie douleur, être une mère sans enfant, un écrivain sans livre, un chanteur sans voix, un conteur sans histoire. Avoir le désir et l'envergure, l'ambition et les dispositions nécessaires, mais échouer malgré tout, par manque d'initiative, de chance ou encore par hasard.
Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child, a long ways from home. This world out here is lonely and cold. This world
Merci beaucoup Elisabeth Benoît d'être venue parler de votre roman Toronto, paru aux éditions POL. À la réalisation cet après-midi, c'était Daphné Leblon, au son Raphaël Rousseau. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club. Spéciale dédicace à Mathilde Wagman à la préparation aujourd'hui. Vous pouvez poursuivre la conversation sur le compte Instagram. Alexandre Alaïbegovic vous attend là-bas.
Sometimes I feel